Bienvenue dans Blabla Yoga. En cet épisode numéro 63, je reçois Carole Armoé, formatrice en Vinyasa et en Yin Yoga. Et aujourd'hui, nous allons parler du Yin Doudou. C'est le petit nom que l'on donne entre nous à cette pratique de Yin Yoga sans inconfort, de cette liberté de choisir de pratiquer un Yin Yoga dans le confort. Alors installez-vous confortablement pour l'écoute et on se retrouve juste après. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en Yin Yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement. En revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Bonjour Carole.
Bonjour Sandrine.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va et toi?
Ça va bien, écoute. Il fait bon, on a envie de sortir un petit peu de cette énergie hivernale, donc c'est
parti. C'est trop cool. Trop contente de voir du soleil tous les jours.
Absolument. Ça commence à réchauffer les cœurs. C'est pas mal. Tout le monde a le sourire après. C'est chouette.
C'est vrai, hein? Le sourire et un peu de sueur parce que tu es sortie avec ton pull et qu'en fait, il fait 18 degrés.
Est-ce que tu peux te présenter, Carole?
Alors, je m'appelle Carole. J'enseigne le yoga. C'est mon activité principale depuis un certain nombre d'années maintenant. J'étais juriste avant. Et après avoir un petit peu cumulé les deux, j'ai switché sur full yoga. Et j'ai encore switché au fil des années, puisque maintenant, je fais principalement des formations. Donc, pour moi, ce sont deux jobs différents, enseigner le yoga et former au yoga. Et c'est mon activité principale actuellement. Et donc, je donne des cours de vinyasa et je forme en vinyasa. Et aussi ma petite passion dans la vie en yin yoga.
Passion partagée. En tant que professeur de yoga, est-ce que tu as des envies particulières dans ta transmission? Quelque chose qui est important pour toi quand tu transmets?
Oui, plein. Mais ça a beaucoup changé au fil des années en soi. Du coup, ce serait difficile pour moi de donner une seule envie parce que je pense que c'est très lié à où on en est dans notre vie, où on en est dans notre pratique. Et je pense que, par exemple, quand j'ai découvert le yoga, enfin, j'ai mis un petit temps, j'ai pratiqué 5-6 ans avant de faire ma première formation, donc pas quand j'ai découvert le yoga, mais quand j'ai commencé à enseigner, ce que j'avais très envie de partager, c'était plutôt la joie du mouvement, le fait que le yoga c'était cool, le fait que le yoga c'était fun, etc. Et puis maintenant, ce que j'ai plus envie de partager à ce stade de ma vie, mais il y a eu des étapes entre les deux. C'est plus quelque chose lié à la notion de liberté dans la pratique. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus interpellée ces derniers temps, c'est quelque chose qui peut être très vite dogmatique. Et je ne parle pas uniquement de courant de yoga, d'école de yoga qui serait dogmatique, mais aussi de vision qu'on peut avoir de le yoga, ça doit être comme ci, le yoga, ça doit être comme ça, la tradition, c'est ça, mais aussi la bonne manière de faire anatomiquement, c'est ça. Et du coup, un truc qui met vraiment une espèce d'énorme pression sur notre pratique et sur l'idée qu'il y aurait une bonne manière de faire, quelle que soit la justification à cette bonne manière. Le problème, c'est qu'il y a plein de bonnes manières de faire, mais elles sont souvent très différentes, avec des justifications qui partent dans tous les sens. Et donc, du coup, transmettre un peu cette liberté et ce... Je suis pas sûre que lâcher prise soit le meilleur mot, mais quelque chose qui s'autonomise et qui s'émancipe un peu de ses doctrines et de ses carcans. C'est à peu près... C'est probablement ma marotte de ces dernières années.
Après, c'est chouette parce que ça correspond aussi à ce qu'on voit dans la société où il y a beaucoup d'injonctions, que beaucoup de personnes essaient d'enlever, de se détacher en tant que femme, en tant qu'homme, dans les rôles que l'on a. Donc effectivement, je trouve que cette liberté, ce besoin de rompre avec les injonctions sont vraiment nécessaires aussi. Et on le voit bien dans notre vie, donc forcément, ça arrive dans notre pratique et dans notre enseignement. Donc c'est tout à fait juste.
Oui, et aussi je pense que y a un aspect probablement lié à notre mode de communication type réseaux sociaux, etc., qui mène à des messages qui vont être très binaires. Et pour moi, la nuance, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et je me retrouve très rarement dans des messages binaires, ou en tout cas, je m'y retrouve plus. Je m'y suis retrouvée au début, toujours avec cette idée de c'est ça la bonne manière, c'est ça la vérité, ça c'est juste, ça c'est faux. Et plus on avance dans notre pratique et dans notre enseignement, plus les choses sont nuancées, plus c'est faux que ça c'est vrai et l'inverse. Et du coup, transmettre des messages qui soient hyper nuancés, même si ça les complexifie nécessairement, c'est quelque chose aussi que je trouve hyper important.
Est-ce que pour toi, ça correspond à une expertise, une expérience ou de la maturité?
Peut-être d'une certaine manière, peut-être qu'il y a une forme d'effectivement d'expérience. Je pense que, en tout cas, je pense que j'étais pas aussi nuancée quand j'étais plus jeune pratiquante et plus jeune prof. Parce que on m'avait enseigné une méthode et une bonne manière, et puis je fonçais la tête dedans et c'était la bonne chose à faire. Et puis le truc, c'est qu'après on découvre une deuxième méthode et la personne nous explique que c'est vraiment la bonne et que l'autre, elle était nulle et qu'attention, elle était même dangereuse. Et puis après une troisième et puis après une quatrième. Et quand tu es à ta 18e méthode magique qui est la seule bonne manière de faire, tu es là, mais du coup. Donc du coup, il y a cet aspect-là, le fait d'avoir un peu poncé toutes les méthodes magiques et de réaliser que rien n'est absolument vrai. Et aussi, je pense que c'est quand même assez lié à ma personnalité qui aime bien comprendre, qui aime bien geeker, qui aime bien creuser et qui du coup fait qu'il n'y a jamais de choses qui soient extrêmement simples dans mon cerveau. Parfois, c'est chiant, mais du coup, ça me permet aussi de mettre de la nuance, même si j'aimerais parfois être persuadée que c'est ça la bonne manière et pas me poser de questions.
Après, c'est chouette parce que ça peut être la bonne manière sur un moment donné avec une
Oui.
personne particulière. Donc, mais j'aime bien ton idée d'apprendre une méthode puis une autre méthode et en fait, on finit par ne plus transmettre des méthodes mais transmettre un savoir-faire peut-être.
Complètement. Complètement. Il y a vraiment ce truc où on en avait déjà parlé ensemble, mais où quand tu donnes tes premières formations, tu transmets exactement ce qu'on t'a enseigné. Donc tu transmets les méthodes telles qu'elles t'ont été transmises. Et puis, c'est pas nécessairement une décision consciente au fil des formations que tu donnes et des cours que tu continues de donner en parallèle et des formations que tu continues de prendre en parallèle et de ta pratique personnelle qui continue d'exister en parallèle. La formation que tu donnes a plus 5 ans, même si son programme n'a pas changé, le contenu n'est plus le même et tu es de plus en plus éloigné de la méthode initiale qu'on t'avait transmise et du cadre qu'on t'avait transmis pour être de plus en plus vers quelque chose que toi, tu as un peu remodelé et refaçonné à ta sauce, quoi.
Et puis en plus, on oublie dans ces cas-là quand on a reçu une méthode il y a 10 ans, la personne qui nous a donné cette méthode aussi a évolué. Donc quand on la retrouve 10 ans plus tard, on dit, mais attends, c'est pas ce que tu disais il y a 10 ans. Donc c'est chouette aussi de pouvoir voir la progression, la manière dont on évolue au fil des ans et comment tout ça se transmet, tout ça se mélange. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a une
Oui,
matière vivante dans les mains.
complètement. Complètement. Et ça, tu vois, cette notion d'évolution de la personne qui t'a transmis la méthode, c'est marrant parce que dans mon dernier 50 heures qui était il n'y a pas très longtemps, les personnes ont souvent le bouquin sous les yeux de Bernie Clark ou de Paul Grillet et te disent mais attends, tu dis ça, mais dans le livre de Paul Grillet, il dit que page 78. Dis, ouais, mais en fait, il date de 2001, ce bouquin. Paul Grillet lui-même ne dit plus ça en 2024.
C'est ça.
C'est sa méthode il y a 23 ans. Il a évolué, il enseigne plus nécessairement comme ça. Donc c'est toujours à un moment donné une méthode que nous on a et qui effectivement, comme tu disais, va fonctionner pour une personne. L'idée c'est pas qu'il n'y a pas de méthode, mais c'est qu'il n'y a pas de méthode absolue et intemporelle, quoi.
Et comme tu le disais tout à l'heure en introduction, tu enseignes aussi bien le vinyasa comme le yin, donc tu as vraiment ces deux casquettes. Donc, d'un point de vue, on va dire, taoïste, est-ce que, on pourrait, placer ça comme étant une pratique yang et une pratique plus yin?
Absolument. D'ailleurs, mon pseudo, le nom de mon site, mon pseudo Instagram, Enco sont Carole Yin Yang.
T'as
Parce
pas
que
su choisir?
j'ai pas su choisir et ça aurait été, quand j'ai commencé à enseigner beaucoup de lignes, il n'y avait pas énormément de profs à Paris. Et donc, je pense que ça aurait été très facile de me positionner sur une espèce de niche, entre guillemets. Je mets les guillemets parce que la notion de niche en droit de la concurrence marche pas sur le marché du yoga. On peut pas avoir de niche au point de vue concurrentiel du terme en yoga. Mais parenthèse droit de la concurrence à part, j'aurais pu me dire, tiens, bah, du coup, je vais me positionner sur le yin, il n'y a pas beaucoup de profs, etc., etc., je vais faire mon expertise là-dessus. Sauf que, bah, moi, j'avais pas du tout, bien que j'adore le yin et que ça représente, il y a plein de gens qui enseignent du yin une fois par semaine en petit complément, moi, ça représente vraiment plus de 50% de mon activité. Je n'avais pas spécialement envie de n'enseigner que ça, je trouve ça. Hyper cool d'enseigner des choses yang pour s'adresser à un public qui recherche ça parfois. Donc, il y a des gens à qui je n'enseigne jamais de yin. Il y a plein de gens qui n'ont jamais pris un cours de yin avec moi. Et l'inverse,
Et l'inverse.
des gens qui prennent que mes cours de yin et qui ont leur prof d'ashtanga, de hatha et qui ne prennent pas de cours dynamique avec moi. Il y a des gens qui font les deux. Mais moi, en tout cas, en tant que personne, ça me nourrit d'enseigner les deux et d'enseigner des choses très différentes aussi. Ouais, voilà.
Et du coup, est-ce que tu as les mêmes fils conducteurs quand tu fais du vinyasa ou du yin, ou si on prend cette dynamique yin-yang? Est-ce que tu as les mêmes fils
Absolument
conducteurs? Ouais.
pas. Enfin, il n'y a pas la même essence, quoi, justement. Comme tu le dis, dans le yin, je pense qu'on chacun choisit un peu les qualités. Dans le yin, au-delà de la technique posturale et de la technique d'enseignement et du cadre de la pratique, pour moi, il y a une espèce d'essence qui est transmise, qui est avant toute chose que je voudrais transmettre, c'est cultiver du yin dans sa vie, cultiver des qualités yin dans sa vie au sens taoïste du terme, justement, au-delà de la posture que tu as choisie pour le faire. Et donc, de la même manière, quand j'enseigne quelque chose de yang, j'ai envie qu'il y ait une notion de dynamisme, de renforcement musculaire, d'effort vraiment, tu vois. Du coup, l'essence de la pratique est vraiment très différente, au-delà même de la notion de technique posturale, séquençage, thèmes choisis, qui sont pour moi un peu des accessoires en fait. Il y a vraiment pas du tout la même chose qui est transmise à l'origine.
Ça marche. Et toi, tu te sens plutôt yin ou tu te sens plutôt yang? On me pose souvent la question, alors je te la retourne.
Eh bien, pendant des années, je t'aurais dit, bah, clairement, je suis yang. Et les gens me qualifient comme ça. De manière générale. Mais bon, yin et yang étant relatifs, je me dis que par exemple, mon côté très introverti, qui ne se voit pas pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais les personnes qui me connaissent me voient parfois disparaître, car je n'en peux plus d'être entourée. Pour mon côté très introverti, par exemple, pour mon besoin très fort de solitude, pour le nombre d'heures que je peux passer sans m'ennuyer à ne rien faire. Alors, je fais rarement rien, pour être complètement honnête, mais le nombre d'heures que je peux passer juste à bouquiner, tricoter, faire du yin, etc. Alors que plein de gens diraient, non, ça fait 4 heures que j'ai pas mis dehors, il faut que je sorte. Je peux rester
Ouais.
tout chez moi sans sortir et me dire, oh, faudrait peut-être aller prendre l'air. Donc, il y a quand même un gros aspect yin chez moi, mais effectivement, j'ai besoin de bouger beaucoup. Si je ne dépense pas, si je n'ai pas d'activité yang dans la journée, je dors pas. quand je parle vite et beaucoup. Donc, y a aussi, c'est très mixé, je pense, en vrai. Même si j'ai dit yang pendant des années, je pense que c'est plus nuancé que ça.
Oui, c'est plus nuancé. Et puis, on a l'impression qu'il faut à nouveau, comme tu le disais tout à l'heure, choisir, c'est l'un ou l'autre. Mais effectivement, il y a plein de nuances en fonction de la saison, de comment t'es à ce moment-là, et puis surtout de ce que tu as fait. Quand on enseigne beaucoup, quand on donne des formations, après, on a besoin de ce temps de récupération. Et c'est important de savoir trouver l'équilibre. Et je trouve qu'en ce moment, surtout, on nous emmène vers il faut faire des choses, il faut être actif, il faut être productif, etc. Et le fait d'être yin, c'est de se dire, c'est là, je me fiche la paix, je vais prendre du temps pour moi.
Bah surtout quand on est freelance, c'est quand même un. Bah après, je sais que tu as fait des épisodes sur ces questions-là, mais c'est quand même un métier dans lequel tu restes tellement yang, tu es obligé de te pousser tout le temps si tu veux que ton activité bouge, il n'y a personne qui le fait pour toi, qu'il faut vraiment presque de manière disciplinaire, se mettre des moments yin où on se dit, bah là, ces 2 jours, c'est mes moments de récupération, sinon je vais me cramer toute seule.
Tout à fait, c'est la notion de tapas de
Ouais.
revenir sur l'effort. Donc l'effort, c'est pas pour faire des choses, mais c'est pour
Ça.
s'arrêter.
Exactement. Le tapas, là, c'est de ne rien faire.
C'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça, de dire le tapas, c'est de pouvoir
rester dans le non-faire et dans le dans l'écoute de soi, mais parce que effectivement aussi en tant que qu'indépendant, alors peu importe le métier que l'on fait, parce qu'après il y a beaucoup de coachs sportifs, de danseurs, de profs de pilates, etc. On a la même, on a des façons de vivre qui sont similaires, et que on est toujours souvent quand on est très actif, parce que on fait les choses tout seul, on frise souvent le burn-out. On est toujours à la limite, il y a toujours un petit truc qui nous arrête, qui nous fait redescendre. Alors personnellement, moi c'est la pratique de yin qui me permet de redescendre et de temps en temps dire attends non là c'est, on va se calmer. Mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à être un petit peu au bord du fil là comme ça. Donc se trouver cet équilibre entre le yin et le yang, c'est un sacré tapas.
Complètement, complètement. Il y a vraiment une notion de discipline et de prise de recul et d'organisation sur ce temps où tu mets les temps yin dans ton agenda, quoi.
Absolument, absolument. C'est d'ailleurs ce qu'on met en premier, non?
Bah oui. Je commence par ça, je mets les trucs que j'ai vraiment pas le choix de faire. Alors bon, ça, c'est déjà dans mon agenda. Et puis après, dans le temps libre, je mets les moments cool pour moi. Et ensuite, je mets la troisième catégorie de choses qu'il faudrait que je fasse.
Ton enseignement a évolué Alors, je vais repréciser ma question, parce que comme tu donnes à la fois des cours et en même temps tu es formatrice, c'est pas forcément le même métier. Mais comment ça a évolué? Alors, tu peux choisir soit en parlant des deux, soit en parlant d'un précisément, parce que cette évolution est plus importante. Voilà, comment tu as senti, toi, ton évolution au fil des années?
Tu veux dire comment, de
Comment tu
manière générale?
transmets, comment tu te positionnes? Ça peut être tout, c'est une question qui est très, très large, hein. Donc,
Eh bien, pour mon enseignement, c'est quelque chose qui a, je pense que c'est presque ce qui s'est le plus transformé, mais plus dans la manière de faire, dans la pure orga, qui est que je suis passée de, je sors de formation, je donne 6-7 cours par semaine, parce que j'avais un autre job, donc c'était déjà beaucoup, 6-7, je passe full time, et donc je suis passée de ce truc de tu donnes 15 à 20 cours par semaine, des cours très one shot. Tu cours dans tous les sens, tu as un cours là le mardi à 9h, un cours là le jeudi à 18h, entre 3 et 5 cours par jour, etc. À quelque chose qui s'est beaucoup resserré et où je donne maintenant 3 cours par semaine. Je donne plus du tout de cours en studio, je donne que des cours en entreprise ou particulier. Et donc du coup, principalement, au-delà du nombre de cours, ce qui a marqué l'évolution de mon enseignement, c'est la notion de suivi. C'est-à-dire que je donne plus jamais de cours. Et donc, ça marche aussi pour les formations et les retraites. Je ne donne plus jamais de cours à quelqu'un que je vois une fois de temps en temps. De gens que je ne connais pas face à moi, sauf le premier jour de la formation ou le premier jour de la retraite ou autre. Mais je donne des cours en entreprise, je donne des cours particuliers, je connais les groupes. Et donc, du coup, ce qui a le plus changé, c'est la notion de suivi et de fil rouge dans l'organisation de mes cours qui est plus jamais, tiens, aujourd'hui, on va faire ça. Ou même, tiens, cette semaine, on va faire ça parce que mes cours, ils sont toujours, du coup, créés par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière, précisément avec ces personnes, ou cette personne si elle est seule, ou bah, pareil en retraite, hein, ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire demain. Il y a toujours une notion de programmation qui est rendue possible par le fait que ce sont les mêmes personnes qui viennent à chaque fois. Et ça, c'est un truc que j'adore et qui a enlevé pour moi beaucoup de charges Oui, ça a aussi enlevé le côté très tout niveau, tu vois, où tu donnes un cours que je continue d'enseigner en formation. Je forme des gens en 200 heures en disant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez donner un cours à quelqu'un qui vient toutes les semaines, quelqu'un qui vient pour la première fois mais qui est prof de yoga, quelqu'un qui vient pour la troisième fois et qui comprend pas du tout son corps et qui est absolument débutant. Et vous allez devoir gérer votre cours et votre thème de cours pour ces niveaux-là et le fait qu'il y a un suivi avec certaines personnes et un one shot avec d'autres.
Tout à fait.
C'est quelque chose que je fais plus parce que moi, je n'ai plus à faire. J'ai une vraie notion de suivi et c'est un truc que j'adore. Et pareil aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais beaucoup de programmes en ligne, etc. Parce que bah, je crée le suivi. En tout cas, moi, j'aime bien avoir. J'adore programmer, je pense. Et je l'avais moins en cours one shot. J'avais plus l'impression d'animer que d'enseigner. Et j'ai plus l'impression d'enseigner quand je peux bah, faire durer les choses et doser la transmission sur tout le mois, tout le trimestre, toute l'année. Et en formation, c'est un peu ce que je te disais. Je pense que la principale évolution, c'est que je me suis de plus en plus éloignée, alors pas du programme que je propose aux gens, quand je propose un programme, je m'y tiens, mais je me suis de plus en plus éloignée d'un programme type qui ressemblait vraiment à bah, quelque chose de absolument normal, pas péjoratif ce que je dis, mais quelque chose de jeune formatrice que j'étais, où je transmettais ce qu'on m'avait transmis, tel quel. Alors que maintenant, je transmets ce qu'on m'a transmis, après l'avoir transmis pendant des années, après l'avoir transmis à plusieurs centaines de personnes, après avoir continué d'apprendre, etc., etc. Et du coup, quelque chose qui est très remodelé et qui est beaucoup plus moi que la simple retranscription de ce qu'on m'aurait enseigné comme programme, quoi.
Donc, tu es passé, comme on le disait tout à l'heure, de méthode à savoir-faire.
Peut-être, ouais.
Mais c'est parfois la question qu'on me pose en disant, mais il y a plein de formateurs en ligne, par exemple, puisque c'est notre secteur à toutes les deux. Il y a beaucoup de formateurs en ligne, alors qui choisir? Et ben, en fait, c'est vraiment une question. Alors, il y a une question de programme, mais il y a aussi une question de qu'est-ce que l'enseignant va transmettre? Et quel type de personne vous avez envie d'avoir devant vous pendant
oui.
50 heures? Parce que voilà, c'est ça. Il faut trouver aussi la personne qui va vous parler, qui aura des valeurs qui vont vous correspondre. Et c'est ça qu'il faut chercher avant tout.
Ben oui, ça c'est certain. Et c'est vrai que j'en parlais aussi pendant le dernier 50 heures, où on me demandait si moi j'avais déjà été déçue de certaines de mes formations, etc. Et je leur disais que ben, pourtant j'ai suivi vraiment beaucoup de formations au fil des dernières années, forcément, parce que ça fait un bout de temps que je suis des formations. Et je leur disais que j'avais eu de la chance parce que non, même s'il y a des choses que j'ai adorées, des choses que j'ai juste bien aimé, si tu veux. Mais il n'y a aucune formation dont je serais sortie en me disant « Ah merde, vraiment, erreur de casting, etc. » Mais en fait, ce n'est pas juste de la chance, c'est que je suis complètement folle quand je choisis une formation. Et je stalk la personne avec qui je vais me former. Je regarde s'il y a un cours en ligne, s'il est gratuit, même s'il est payant, je m'en fous. Je m'abonne à la plateforme pour prendre deux, trois cours. S'il faut aller prendre un cours en présentiel, je le fais. Si la personne me dit « Ah bah, j'ai que du online », je dis bah, « Ah bah, moi, je veux faire que du présentiel. » Bah tant pis, je vais essayer ton cours en ligne. Je veux savoir qui est la personne et plus j'ai de recul, moi, plus les années passent et plus je suis un peu chiante là-dessus. C'est-à-dire que je sais à peu près ce qui ne m'intéresse pas et le type d'enseignement avec lequel je ne vais pas du tout être en adéquation et qui, du coup, ne va pas me convenir, le type de personnalité avec lesquelles j'aurai zéro attente crochue, tout ça, je le sais maintenant. Donc, avant de choisir une formation, je suis extrêmement intrusive. Alors, généralement, je ne sollicite pas la personne directement. Parce que je sais bien qu'en tant que formateur, tu donnes plein de formations, il y a 50, 100 personnes, tu donnes 5, 6, 10 sessions par an. Si chaque personne, soit 1000 personnes, t'envoie un message ou te demande un appel téléphonique pour décider si oui ou non elle fait ta formation, ça prend pas mal de temps. Donc, je ne contacte pas nécessairement la personne, mais je regarde tout ce qui est à disposition sur cette personne, ses réseaux sociaux, les cours qu'elle propose. Et du coup, je sais si ça match ou pas, quoi.
Je trouve que c'est une super méthode parce qu'effectivement, on revient sur cette idée de méthode. Comme ça, on est sûr de pas se tromper parce que c'est important. Alors, il y a le contenu, mais il y a aussi vraiment les valeurs et ce qu'on vient chercher. Et c'est important de prendre ce temps-là, de chercher justement quand il y a de la multitude de personnes. Moi, je vois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, j'aimerais faire ça. » Et ça, je dis « Bah, c'est pas moi. Tu peux aller voir tel enseignant, tu peux aller voir telle formatrice parce que ça va plus correspondre à ce que tu cherches, dans la pédagogie que tu cherches. » Et c'est important aussi d'avoir ce recul, ce besoin de dire « Ben non, c'est pas ce qu'on cherche. » C'est parce que justement, nous, on a vécu cette recherche-là.
Complètement, complètement. Et c'est vrai, j'y pensais, j'aimerais bien, quelqu'un qui disait j'aimerais bien apprendre ça et ça, on me demande aussi, tiens, j'aimerais bien me former là-dessus, est-ce que tu donnes pas une formation là-dessus? Ou ce serait bien que tu crées une formation autour de ce point-là. Et dans les faits, j'ai créé mon premier 50 heures de Yin précisément pour répondre à ce type de demande parce qu'il n'y avait pas beaucoup de formations en français à Paris et que mes élèves m'en demandaient. Donc, mais au fil des années, maintenant, il y a tellement de formations. Et moi, j'ai tellement des choses que j'aime et d'autres qui ne m'intéressent pas, sur lesquelles j'ai aucune expertise, que à ce stade, maintenant, je ne vais plus créer une formation ou me former sur un sujet pour recracher ce que j'ai appris il y a 2 mois, parce qu'il faudrait créer une formation dessus. À ce stade, si quelqu'un veut une formation sur la danse du dragon, moi, je l'ai pratiquée 4-5 fois, les 10 dans ma vie, je ne suis pas formée, ça ne fait pas partie de ma pratique régulière. aller faire une formation en danse du dragon avec quelqu'un qui l'incarne.
Absolument.
Je ne vais pas me former vite fait en 30 heures à la danse du dragon pour recréer un 50 heures de danse du dragon derrière, quoi.
Ça n'a plus de sens.
Non, c'est pas intéressant.
Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ça nous demande beaucoup d'énergie pour un truc qui n'est pas satisfaisant, alors qu'il y a tellement de sujets qui sont passionnants.
Oui, et puis j'ai pas de plus-value. Enfin, je ne pourrais que recracher un truc que je viens d'apprendre.
Tout
À
à
ce
fait.
stade, je pense qu'on peut se permettre sur ce marché où il y a vraiment plein d'offres et plein de profs, de choisir des personnes avec qui se former qui ont une plus-value, quelle qu'elle soit, que ce soit du recul, de l'expérience, une passion sur un sujet, quoi.
Quand on reparle d'évolution de la pratique, il y a, allez, on va dire 10, 15 ans, on va faire plus 15 ans que 10, le yin était transmis comme étant une pratique où il faut aller chercher de l'étirement, aller chercher dans les articulations, dans les tendons, etc. Donc, c'était vraiment le truc qu'il fallait souffrir pour faire du yin. C'était un peu ça, j'exagère. J'exagère. Mais il y a aussi l'empreinte du fitness où il faut souffrir et c'est parce qu'on a souffert qu'on a fait quelque chose. Donc voilà, donc c'était vraiment les premières transmissions il y a une quinzaine d'années. Est-ce que toi, t'enseignes toujours comme ça ou est-ce que tu es passé en yin confort?
Complètement yin confort. Complètement yin confort. Après, c'est un sujet, je trouve, moi, c'est un sujet qui me fascine, cette question de comment on fait du yin et pourquoi on fait du yin. Et je pense que sur cette question de yin confort versus yin inconfort, j'ai passé sur mon dernier 50 heures au moins 3 heures avec les élèves à discuter de cette question parce que c'est pas complètement tout blanc ou tout noir comme toujours. Mais en tout cas, pour moi, il y a un aspect qui est, bah, ça dépend déjà de quel point de vue tu te places, quels sont les effets du yin que tu es le plus venu rechercher. Et ça, moi, je suis pas, je me mets pas, enfin, c'est pas que je me mets pas à la place des élèves, je ne suis pas les élèves. Évidemment, je suis moi-même et je décide quel est, qu'est-ce que je transmets le plus dans cette pratique. Et bien qu'il y ait les effets physiques au yin, type bah, les effets d'un étirement passif, donc amplitude de mouvement, bidule, etc., ils existent, mais je suis pas là pour ça. Moi. Je me dis pas, je fais mon stretch et je serai plus souple à force de faire du yin. Je sais que ça a un effet. Je sais que je serai plus souple à force de faire du yin. Mais je suis pas là pour ça. C'est pas, je le fais pas pour ça. Et je le transmets pas pour ça. Dans ce cas, je donnerai les cours de stretching, en fait. Du coup, pour moi, l'essence du yin, ce que je trouve le plus riche dans cette pratique, c'est vraiment l'aspect lâcher prise, apprendre à ne rien faire, se poser, qui sont aussi en fait finalement des choses au-delà du yin qu'on retrouve, ne pas rechercher les fruits de la pratique dans toute la philosophie du yoga dans l'absolu, tu vois, justement un truc qui serait à l'opposé de no pain, no gain. Et donc du coup, il y a un tel taf pour amener les gens vers ça que ce serait hyper contre-productif à mon sens de leur parler de se mettre dans une position inconfortable. Par ailleurs, je pense avec le recul que potentiellement cette notion d'aller chercher l'inconfort, elle est beaucoup plus mentale. Pardon, ma voix commence à lâcher un peu. Elle est beaucoup plus mentale que physique. Et que souvent, quand on dit oui, le yin c'est inconfortable et tout, on a tendance à penser que ça veut dire que la posture est inconfortable, alors qu'en fait, ce qui est inconfortable, c'est juste de rester face à soi-même pendant quelques minutes dans la posture. Et que du coup, si on veut utiliser le terme inconfort, on peut être extrêmement précis dans ce qu'on veut dire. Quand je vous dis que c'est inconfortable, je ne suis pas en train de dire que je pense que vous devriez avoir mal pour être en PLS dans votre dragon, mais bien que potentiellement, ça fait remonter des choses inconfortables. Et d'ailleurs, c'est juste un potentiel. Parfois, ça peut aussi être une pratique extrêmement apaisante et ressourçante. Et je trouve que c'est hyper précieux qu'on ait des pratiques qui soient apaisantes et ressourçantes.
Absolument.
Voilà.
C'est chouette parce que quand tu me fais cette description, ça me rappelle une élève que j'ai eue il y a pas longtemps qui choisissait des postures qui n'étaient pas très très amples alors qu'elle avait une bonne souplesse, je pense, et qui était incapable de rester immobile, qui en permanence levait la tête, regardait à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passait, qui on voyait qu'elle s'interrogeait sur mais pourquoi il reste immobile pendant des heures. Et effectivement, cette notion d'inconfort, elle était vraiment très présente. On voyait qu'elle essayait de replonger dans sa tête, de rester sur la respiration, de suivre l'exercice qui était proposé. Mais qu'en même temps, bah, en fait, c'était un effort constant de pouvoir rester focalisé sur soi et de ne pas savoir quoi faire. Et effectivement, c'est quelque chose qui est difficile. On est tellement sollicité en permanence. On est dans cette culture-là aussi. Et de savoir s'arrêter, de cultiver l'ennui, d'apprécier l'ennui, de reconnaître qu'on est en train de s'ennuyer dans une posture, de se dire, ah, mais en fait, je pensais être là, être présent, mais non, ça fait 5 minutes que je suis en train de faire ma liste de courses, ou peu importe.
Oui, c'est ça.
Et d'apprendre à être là et de se familiariser avec, bon, bah là, je suis censée rien faire et il va.
Ouais, complètement. Et puis même, tu vois, même au-delà du mental, et au-delà de tout ce qu'on a dit, en bonus, je pense même que la notion d'inconfort, elle est aussi presque un abus de langage ou un défaut de traduction sur cette notion de edge. De rechercher sa limite et donc son juste niveau de sensation, etc. Et que, aussi, une mauvaise perception, peut-être, en tout cas, une perception très biaisée de la notion même de sensation. De l'idée, parce que en soi, à partir du moment où il y a une sensation, ça veut dire que tu es placé dans une forme de stimulation des tissus, que ce soit parce que ça tire ou parce que ça presse. Et donc, il y a un effet. Après, on peut poser la question de l'amplitude. Est-ce qu'il faut être à son amplitude max pour avoir des effets? Il y a des études sur les étirements là-dessus, très intéressant, mais qui finalement dépassent le scope du yin.
Tout à fait.
À nouveau, on pourrait donner des cours de stretching dans ce cas-là. Mais du coup, il y a cette assimilation de sensation égale inconfort. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un massage. L'analogie du massage pour dire, mais en fait, je suis désolée, mais tu peux te faire masser, avoir une sensation tactile qui ne soit pas désagréable. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de s'étirer, s'étirer dans une intensité modérée n'est pas un inconfort. Genre, la sensation d'étirement, elle est agréable. Et donc, du coup, on peut aller dans une sensation sans que ça veuille dire qu'on est allé dans un inconfort. Tu t'étires de manière agréable et tu restes avec cette sensation et elle peut être plaisante. T'es pas obligé d'aller à chaque fois à l'endroit où c'est désagréable, quoi.
Faut souffrir dans la vie, il faut souffrir. Sinon, ça n'a aucun intérêt, faut souffrir.
Parce que tu sais, on m'a souvent dit aussi en réponse à ces histoires d'inconfort que bah oui, mais du coup, autant aller faire du restauratif, il y a du restauratif pour ça. Mais dans le restauratif, il n'y a pas de sensation.
Non.
Il n'y a pas de recherche de stimulation physique. C'est des pratiques qui peuvent être sœurs, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, faire du yin confortable, ce n'est pas faire du restauratif, parce qu'on est toujours à la recherche d'une sensation. Du coup, je trouve ça drôle, ça met un peu pour moi en exergue le fait que les gens, quand ils cherchent une sensation, ça veut dire qu'ils cherchent un truc désagréable.
Oui. Et puis en plus, tu vois, en restauratif, si on se retrouve dans un alignement qui est bien spécifique parce qu'il y a cette intention parfois d'avoir un alignement qui est bien spécifique, ben pour certaines personnes, ce qui est mon cas avec un corps qui est plutôt raide, eh ben c'est de l'inconfort. Hein. Parce que même si on ne cherche pas à avoir de sensations physiques, la manière dont on a proposé la posture, ben c'est de l'inconfort. Donc c'est vraiment toujours très 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 ténu comme différence entre qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui est déplaisant. Est-ce que j'ai jamais de sensation? Et là, le fait d'avoir une petite sensation, j'en fais quoi de cette sensation? Donc c'est vraiment cette image de d'être dans la pédagogie ou en tout cas l'éducation corporelle de qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce que je ressens.
Oui, et sur cette notion d'éducation corporelle, j'ai souvent l'impression, et je le dis souvent aussi, que du coup, en ce sens, la pratique du yin, elle est à la fois très débutante ou très adaptée à des personnes débutantes et très avancée. Et qu'on peut la guider de différentes manières selon le public qu'on a, parce qu'elle est très adaptée aux débutants dans la mesure où il y a une vraie notion d'éducation corporelle qui est plus facile à mettre en œuvre quand on est 5 minutes dans la posture et qu'on a le temps et qu'en tant que prof, on a le temps d'aller voir la personne, lui demander ce qu'elle sent, si elle le sent bien là, si elle le sent bien ici, etc., etc. Et donc d'amener son attention sur les zones où il y a des sensations versus quand tu as quelques respirations dans l'effort, dans un guerrier.
Tout à fait.
Et donc, mais par ailleurs, il y a aussi le côté très avancé du spectre où bah, la personne qui a vraiment l'habitude de pratiquer, elle a plus besoin qu'on fasse cette éducation-là et elle est juste dans une pratique de perception de ses ressentis qui est une méditation sur tes ressentis, quoi.
Absolument, absolument. J'aime bien vraiment ton spectre de aborder pour les débutants et la possibilité d'aller loin ou différemment en tout cas, plutôt que loin, différemment quand on a l'habitude de pratiquer depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des élèves qui sont là depuis des années. Moi, j'ai des élèves qui sont là depuis 10 ans, 12 ans, mais parce que justement, eh ben, ils viennent chercher autre chose. Ils sont dans une autre qualité d'attention et d'écoute.
Tout à fait.
Et toi, dans ta pratique en ce moment, alors en ce moment, sachant que c'est particulier, et il y a 15 jours, c'était peut-être pas la même chose. Est-ce que tu as une préférence en ce moment dans ta pratique? Est-ce que, alors, c'est pas une question de yin ou de yang, mais est-ce qu'il y a des choses qui te ressourcent et qui te font du bien en ce moment?
Je fais des tractions en ce moment.
J'ai cru que tu allais me dire, je fais du tricot en ce moment.
Oui aussi, mais ça c'est pour le coup dans ma vie le tricot c'est presque comme du brossage de dents à ce stade de ma vie.
Ça marche.
C'est-à-dire que ça ne m'arrive pas de pas tricoter. Je les mets quelques rangs par jour quoi qu'il arrive. Non, en ce moment dans ma pratique perso j'ai deux choses. J'ai besoin de faire des trucs très ludiques. Et bon, après, chacun a sa version du ludique. Donc, j'ai une pratique plus sportive que posturale de yoga en ce moment. Et donc, du coup, mes challenges actuels sont les handstands. Personne qui me suit 2 secondes sur quelconque réseau ne peut l'ignorer. Les tractions et des trucs avec les anneaux qui s'appellent les skin the cat, dans lesquels on fait des galipettes dans les anneaux, grosso modo, hein. Et du coup, il y a vraiment pour le coup une vraie notion de pur challenge, de réalisation d'un truc en gagnant de la force, mois après mois. C'est très lent, les progrès, je trouve. Mais ça m'amuse et ça me stimule beaucoup. Et contrebalancé par le fait que ma pratique de yoga est principalement du pranayama.
Ça marche.
Avec mon petit yin du soir, qui est toujours là. Je fais toujours au moins une posture de yin par
Okay.
jour.
Donc tu reviens sur ton corps a changé de forme ou tes mouvements ont changé de forme quand tu parles de ludique, d'anneau, d'aller dans tous les sens et de faire des tractions. Ça revient sur cette notion de liberté dont tu parlais tout à l'heure au début. Cette capacité à être dans la liberté d'une certaine manière. Alors, il y a plus de contraintes quand on veut faire des handstands parce que si tu ne fais pas attention à ce que tu te fais, tu te retrouves par terre. Mais est-ce que toi, ça te permet d'explorer une certaine forme de liberté ou d'avoir d'autres contraintes? Ou est-ce que
Oui,
c'est... Ouais.
complètement. Il y a vraiment cet aspect. Et de manière générale, c'est un peu ce que je te disais aussi, après avoir tourné sur toutes les méthodes, et ben, je les mixe un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais faire ma pratique, je vais faire ma première série d'Ashtanga à l'ancienne, et puis le lendemain, je vais me faire un petit vinyasa flow, et puis le jour d'après, je vais aller faire des tractions. Je me suis également remise à courir. Ça fait des années que j'essaie de m'y remettre, et puis c'est vraiment très en dents de scie. Ah bon, j'ai jamais été une grande coureuse, mais bon, en tout cas, à une époque, je pouvais courir 10 km sans avoir envie de mourir, et maintenant, au bout de 4 km, ça devient vraiment difficile. Et du coup, j'essaie de m'y remettre aussi. Mais après, il y a une notion aussi purement physique où je trouve que c'est très pertinent de varier les contraintes qu'on met sur son corps. Et moi, ça me fait me sentir bien physiquement. C'est-à-dire que plus je fais ce genre de choses, et moins j'ai de douleur. Genre, je suis plus tout le temps chez l'ostéo parce que j'ai mal à l'épaule à force de faire le même mouvement et pas d'autre, de pas renforcer. Et en fait, dans ces trucs-là, c'est que des choses un peu ludiques pour moi. Tu vois, les anneaux, les tractions, courir, ça vide la tête au moins un minima, au-delà de ludique, calmons-nous. Mais du coup, c'est des contraintes très variées sur le corps qui vont le renforcer dans différentes directions, qui font que ça me dispense un peu de faire les exercices un peu boring, de pure kiné, pour avoir des épaules et des jambes solides dans toutes les directions, etc. Et donc, ça me permet de me sentir libre ensuite dans ma pratique de yoga.
D'accord.
Où bah, mon corps maintient toutes les contraintes que je peux mettre, supporte toutes les contraintes que je peux mettre dessus par ailleurs dans mon yoga, parce qu'il est renforcé dans mes trucs fun.
Donc en fait, pour faire un résumé, tu ne te sers pas de ta pratique de yoga pour avoir toutes ces disponibilités corporelles, cette force, etc. Tu vas le chercher ailleurs pour avoir cette liberté ensuite dans ta
Oui.
pratique de yoga.
Oui, je
Génial.
pense que ma pratique de yoga s'est un peu épurée. Effectivement, je ne cherche pas ou plus, parce que je l'ai fait, à mettre des exercices. Pardon, j'ai brûlé un petit peu d'encens. Car retour d'Inde égale, tu cherches à retrouver les petites odeurs, les petits machins. Mais du coup, je m'étouffe dedans. Oui, je pense que pendant longtemps, par exemple, il y a, je sais pas, 8 ans, je donnais des cours, 7 ans peut-être, qui s'appelaient HIIT Yoga, dont on pourrait débattre maintenant. Je ne suis pas sûre que je reproposerais ce genre de choses. Mais parce qu'à ce moment-là de ma vie, le yoga postural prenait tellement de place que quoi que je fasse physiquement, il fallait le mettre à la sauce yoga. Ce n'était pas une volonté d'approprier, de détourner le yoga. C'était juste que je kiffais tellement la pratique posturale du yoga que quoi que je fasse, je le mettais dedans, quoi. Et donc même mon cardio, il était glissé dans mon cours de yoga. Et maintenant, il y a plutôt un truc où ma pratique de yoga, elle est probablement de plus en plus épurée, mais que tout ce qui va être vraiment pur renforcement du corps, travail de mobilité, etc., c'est ailleurs dans une pratique purement sportive dans laquelle je m'amuse. Et donc, il y a un vrai recentrage sur mon tapis, même si je pense qu'on peut absolument faire des cours de yoga qui permettent de renforcer le corps de manière efficace, etc., quoi. Mais dans ma pratique perso, c'est moins le thème maintenant.
Merci Carole d'avoir partagé comment ta pratique a évolué, parce que c'est une question réelle de comment on évolue à travers les âges. Est-ce qu'on a la même pratique du début jusqu'à la fin? Et cela confirme encore une fois que non, on évolue. Et c'est de se laisser assez de liberté pour explorer les choses. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous.
Avec
Est-ce que
plaisir.
tu... Pardon, je t'ai coupé la parole. Est-ce que tu peux... Partager avec nous comment te retrouver, en tout cas comment les auditeurs peuvent te retrouver.
Eh bien, j'ai un compte Instagram comme 99,9% de la population qui s'appelle Carole Yin Yang, tout attaché. J'ai un site internet que j'essaie de mettre à jour régulièrement, mais sur lequel je suis probablement moins à jour que sur Instagram qui prend 2 secondes. Et mon site est le même que mon compte Instagram. Et j'ai une newsletter qui officiellement est mensuelle, qui de facto est parfois plus trimestrielle. Donc je spamme assez peu. Mais dans laquelle je mets des choses peut-être plus perso ou peut-être plus creusées que sur le site qui est purement informatif et sur Instagram qui reste en format très court, quoi.
Super, je te remercie.
Merci à
Merci
toi.
beaucoup.
Merci.
Alors, êtes-vous convaincu par ce yin doudou? Êtes-vous prêt lors de votre prochaine pratique à vous installer confortablement, à respirer simplement et à être présent? Si oui, partagez avec nous vos impressions en commentant le post de l'épisode ou en laissant en story vos impressions. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou sur Spotify. Cela permettra à Blabla Yoga d'être entendu par beaucoup plus de monde. Et si vous avez envie de faire autrement, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Blabla Yoga. Merci pour votre écoute.